Suzette décolle les étiquettes.
Est-ce que tu connais des hommes célèbres ?
Bah oui, Emmanuel Macron.
Et est-ce que tu connais des filles célèbres ?
Au Royaume-Uni, c'est une reine.
Suzette décolle les étiquettes.
Sur Radio Laser.
Frida Kahlo est une peintresse Olympe de Gouges, une autrice, et Marie Curie, une professeuse. Non, il n'y a pas de faute de français dans cette phrase. Suzanne Joly, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que ça interpelle, forcément, ça pose question. Nous, en tant que professionnels de la radio, on s'interroge toujours sur ces questions de langage et de genre. Heureusement, vous avez des nouvelles rassurantes pour nous. Vous allez un petit peu améliorer notre quotidien aujourd'hui.
Bah, peut-être. En tout cas, je vais m'appuyer sur les travaux de recherche d'Eliane Viennot, qui travaille sur ces questions de langage inclusif et de nom de métier, notamment au féminin et au masculin.
Et on se pose la question à chaque fois, hein, professeur, professeuse, entrepreneur, entrepreneuse. Il y a plein de choses qui nous posent problème, nous, aujourd'hui, dans notre quotidien. Et ce n'est pas que propre à la radio. Pourtant, c'est se créer des problèmes alors que les solutions existent déjà. Il faut avoir un petit peu de savoir historique, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Si on revient en arrière, en fait, on constate que ces noms de métiers au féminin existaient bien. Donc, vous l'avez dit, peintresse, autrice, professeuse, lieutenante, etc. Aujourd'hui, ça vient nous chatouiller un peu les oreilles parce que ça a été rayé du dictionnaire, en fait, depuis le 17e, 18e siècle. Et donc, c'est une vague de masculinisation des noms de métiers qui a été initiée par l'Académie française à cette époque. Et donc, nous, on hérite de ce passé.
Donc, les mots existent, ils sont là, ce ne sont pas des fautes, ils répondent aux enjeux de critères orthographiques de la langue française et pourtant on ne les utilise pas. Pourquoi, selon vous, Suzanne ?
Parce qu'en fait, on les a oubliés déjà et il y a des nouvelles règles qui ont été imposées. Donc, on nous a dit que c'était pas beau d'employer ce genre de terme ou que c'était pas assez noble. En tout cas, c'était les arguments utilisés à l'époque pour faire passer le masculin sur le féminin, d'où la fameuse phrase « le masculin l'emporte sur le féminin » aussi dans les accords, etc. Or, c'est une règle qui n'a pas du tout toujours existé et qui n'est pas effectivement dans le fonctionnement initial de la langue française.
Une vague de masculinisation qui se poursuit aussi selon des critères différents.
Oui, en fait, on observe que cet intérêt à vouloir mettre les noms au masculin ou au féminin, en fait, ça vient surtout décrire des réalités sociales qui sont derrière. C'est pas tant l'aspect linguistique ou grammatical qui dérange, mais c'est parfois plus les réalités qu'on met derrière, donc à savoir l'accès aux diplômes, aux professions, et puis au prestige et au salaire. Et on sait que ça n'a pas toujours été simple pour les femmes à l'époque.
Et je reprends l'exemple de lieutenant, parce que c'est peut-être le plus frappant en termes de hiérarchie. C'est vrai que quand on va discuter avec des gens de l'armée, par exemple, on aurait du mal à dire, même à une femme aujourd'hui, lieutenante, on a l'impression que ça serait mal vu. Ça, c'est dû aux constructions qu'on a depuis tout petit, justement, sur ces questions de genre.
Sans doute qu'on a perdu l'habitude, en fait, d'utiliser ces mots. On n'en avait même pas connaissance jusqu'à ces quelques années où c'est revenu à la surface que ces mots existent bel et bien et qu'on peut les utiliser et qui font même partie du fonctionnement initial de notre langue et qui n'a pas à tergiverser sur leur utilisation finalement.
La première étape dans ce combat contre les inégalités à filles et à garçons, c'est de les comprendre et d'en prendre conscience. Ça semble être fait parce qu'il y a tout un mouvement qui se met en place dans la société. On parle de féminisation. C'est pas forcément bienvenu dans ce cas-là précis, Suzanne ?
En fait, ce que dit Eliane Viennot sur la question, c'est que finalement, il ne s'agit pas de féminiser les noms de métiers, mais c'est plutôt de démasculiniser la langue. Puisque voilà, il y a eu toute cette vague où on a supprimé les noms féminins qui existaient pour les remplacer, ou pour ne garder que le nom masculin. Et donc, en fait, l'idée, ce serait plutôt de revenir un peu en arrière et de remettre ces noms féminins au goût du jour. Mais il n'y a pas la question de féminiser, puisqu'ils étaient déjà là avant, en fait.
Donc vous pouvez aller chez la médecine, par exemple. Ce ne sera pas la médecine du travail, ce sera la médecine, la femme qui fait le métier de médecin.
C'est ça. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre, mais ça se dit. La médecine, une philosophesse, une lieutenante, on l'a dit, une écrivaine, une autrice, etc. Ce sont des mots qui s'employaient très couramment il y a 2 ou 3 siècles de ça.
Alors, il y a une notion également qu'on aborde beaucoup dans ces questions-là, c'est le masculin neutre. Qu'est-ce qu'on entend par là ?
L'un des arguments qui avait été utilisé, c'est donc de dire que déjà le masculin était quelque chose de plus noble, de plus beau à employer, et que en fait on pouvait avoir recours au masculin dit neutre parce que ça englobe tout le monde, ça englobe les deux sexes, et donc ça suffit d'utiliser juste les termes masculins. Or, on se rend bien compte que le neutre, en tout cas dans notre langue, ne s'entend pas, puisque dans notre langue, le fonctionnement repose uniquement sur la présence du féminin ou du masculin, ce qui peut aussi poser problème dans la prise en compte des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces deux catégories. Mais en tout cas, lorsqu'on dit en français, par exemple, les pompiers aux enfants, je ne suis pas sûre qu'ils visualisent aussi des pompières. Et d'ailleurs, quand on dit les pompiers ou les pompières, souvent ça interpelle les enfants. Donc, ce qui signifie aussi que le neutre ne s'entend pas, en fait.
Vous précisez dans cette langue-là, parce qu'il y a d'autres langues peut-être où ça marche mieux, ou en tout cas c'est plus simple, Suzanne ?
Oui, c'est ça. En anglais, on le sait, les termes neutres existent, pour tout d'ailleurs, pour les êtres animés ou inanimés. Et donc ça simplifie la tâche sur cette question. Mais dans les langues latines, c'est pas le cas.
En français, c'est encore plus compliqué. Et en rajoutant encore un petit peu, on pensait que la coupe était pleine. Là, ça faisait déjà beaucoup pour la féminisation de la langue française, entre guillemets. Mais on va rajouter en plus un effet supplémentaire, c'est la connotation péjorative de certains mots.
Ouais, le féminin, malheureusement, est toujours suivi un peu d'une vague de dévalorisation. Et donc, parfois, ça peut renvoyer à quelque chose de dépréciatif. Ou en tout cas des réalités différentes. Par exemple, lorsqu'on pense à un couturier ou une couturière, peut-être que derrière le couturier, on va plutôt visualiser la haute couture, Jean-Paul Gaultier, etc. Donc quelque chose de très prestigieux, connu, célèbre et tout. Et puis derrière la couturière, plutôt la petite main ou en tout cas les réparations quotidiennes des vêtements, etc.
Et ça fonctionne avec d'autres métiers. N'hésitez pas là aussi à réfléchir chez vous, à les trouver parce que voilà, ça existe dans plein de sens différents. Y a des défis donc à relever, Suzanne Joly. Comment fait-on aujourd'hui pour les relever, ces défis ?
Bah, l'enjeu, c'est donc de redonner aux femmes la visibilité qui leur revient sur leur statut professionnel, leur titre et leur contribution, tout en prenant conscience, comme on le disait, des enjeux de pouvoir qu'il y a derrière. Parce qu'encore aujourd'hui, notamment dans le milieu politique, ça dérange de dire « Madame la ministre ». En revanche, ça ne dérange pas de dire « la secrétaire », etc. Donc, on voit bien qu'il y a une question d'accès au pouvoir, au prestige derrière notre langue, en fait. Et puis, de deux, c'est en utilisant des termes corrects, de lutter quelque part contre la division sexuée du travail. Parce qu'à force d'entendre dire des noms de métiers, soit majoritairement au masculin, soit majoritairement au féminin, forcément, on véhicule des représentations et des modèles pour les nouvelles générations. Donc, on peut aussi employer cet outil qu'est la langue française pour dire aux enfants que des métiers comme informaticienne ou puériculteur existent aussi.
Et sage-femme aussi pour un homme. Ça, c'est un petit peu le piège parfois, mais ça existe. On peut être homme et sage-femme. Aujourd'hui, Suzanne, on a l'impression que peut-être les choses s'améliorent. C'est pas forcément le cas, justement, sur ces questions-là d'orientation, de choix de métier ensuite.
Vu que l'accès aux études s'est généralisé, on a l'impression que aujourd'hui, voilà, on peut choisir son métier, sa filière, etc. Or, ce sont aussi, en tout cas, l'orientation scolaire et professionnelle, ce sont des choses qui sont aussi très soumises aux stéréotypes de genre et à la sexuation, en fait, des compétences et des activités dans notre société. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la mixité des métiers, elle est très loin d'être atteinte, puisqu'il y a moins de 2 métiers sur 10 aujourd'hui en France qui sont mixtes.
Oui, très peu, effectivement. Et il faut peut-être aussi définir ce qu'on entend par mixité. C'est pas la parité ?
C'est ça. Souvent, derrière mixité, on pense que c'est 50-50. Or, en fait, la mixité, en tout cas dans un métier, c'est lorsqu'il y a entre 50% et 60% de représentation d'un sexe et entre 40% et 50% de l'autre dans un même métier.
C'est plus un équilibre qu'une égalité, donc ?
Oui, c'est ça, parce que ce serait difficile d'atteindre 50-50 dans chaque métier. Mais donc là, c'est plutôt voilà, entre 40 et 60 pour considérer qu'un métier soit mixte.
Ce phénomène-là crée des différences. On l'observe notamment aussi dans ce qu'on appelle les familles professionnelles.
Oui, c'est ça. En fait, il y a à peu près 87 familles professionnelles qui sont répertoriées aujourd'hui en France. Et là encore, on observe que les femmes et les hommes ne se répartissent pas de la même manière dans ces familles professionnelles. Donc, on observe qu'il y a 50% des femmes qui vont se répartir dans 12 familles familles sur 87 et 50% des hommes qui vont se répartir dans 20 familles sur 87. Donc là, encore une fois, on observe que l'orientation scolaire et professionnelle est très sexuée et qu'en fait, on s'oriente globalement toujours vers les mêmes métiers.
Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes, pour les hommes, c'est plus simple de choisir un métier? En tout cas, il y a moins de barrières, de freins?
Bah, eux aussi sont concentrés dans 20 familles sur 87, donc c'est quand même
ils sont orientés aussi.
Donc ils sont aussi très très orientés. Après, c'est clair que on rencontre pas les mêmes freins en tant que femme ou homme sur le marché du travail.
Justement, ces freins, quels sont-ils, que l'on soit homme ou femme d'ailleurs, qu'est-ce qui nous pousse à privilégier comme ça ces familles de professionnels?
Mais toujours les mêmes causes hein, à l'origine, c'est-à-dire les stéréotypes de genre qui pèsent dès la petite enfance, voilà, sur les garçons et les filles, à savoir une manière différente d'être éduqué et le fait qu'on ne soit pas encouragé à développer les mêmes compétences, à se comporter de la même manière, à investir les espaces de la même manière. Et puis, il y a aussi clairement un manque de représentation, que ce soit des deux côtés. Par exemple, on a un manque de représentation d'hommes dans le secteur de la petite enfance, ce qui fait que les enfants n'ont aussi pas une image masculine de ce métier. Et à l'inverse, on manque de représentation de femmes, par exemple, dans les secteurs scientifiques ou informatiques, etc. Et puis, il y a aussi, comme on le disait au début de cette chronique, la manière dont nous communiquons sur les métiers aux enfants.
N'hésitez pas, là aussi, à montrer à vos enfants que tout est possible, tous les champs sont ouverts, qu'ils peuvent faire et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et ce qu'ils veulent. Et là-dessus, justement, il y a un test très simple que vous avez mis en place, vous, sur votre compte Instagram, Suzanne, c'est de faire la liste des scientifiques masculins que l'on connaît, que l'on peut lister, écrire, et faire ensuite la liste des scientifiques féminines. Et là, pour le coup, on cale un petit peu plus rapidement que pour les hommes, c'est ça hein.
En fait, moi, ce que je demande, par exemple, en atelier, c'est que je dis juste nommer un maximum de scientifiques célèbres en 30 secondes ou en une minute. Quand je dis scientifique, c'est plutôt dans le champ des sciences dures, donc maths, physique, chimie, astronomie, etc. Et effectivement, très souvent, il n'y a que des hommes qui ressortent. S'il y a une femme qui est nommée, c'est très souvent Marie Curie. Mais voilà, c'est à peu près la seule qui est citée.
C'est ce que j'ai fait en début de chronique également. Toutes les chroniques sont disponibles en podcast. Si vous avez pris celle-ci en cours de route, n'hésitez pas à la retrouver sur le www.radiolaser.fr. Suzanne Joly est avec nous tous les mardis avec Suzette d'École Les Étiquettes. Merci Suzanne.
Merci.
Suzette d'École Les Étiquettes.
En podcast sur le site internet radiolaser.fr.
Suzette d'École Les Étiquettes.